Marie-Michel.
Voilà, vous pouvez y aller, frère Gilles, pardon.
Donc le programme du jour, c'est de voir comment McIntyre propose une définition des vertus à l'époque qui est la nôtre. Et puis, vous avez dû recevoir par les bons soins de Jean-Louis quelques extraits d'un texte de deux théologiens protestants qui a été écrit en 1989, qui a déjà donc un certain âge, et qui s'inspire pour une part, intègre pour une part, l'enseignement philosophique de McIntyre et qui en montre l'intérêt, même pour penser aujourd'hui la vie des églises dans la société qui est la nôtre. Alors, vous avez le texte de mon exposé sous les yeux, ça facilitera quand même le suivi. Ce que je vais dire, d'abord, c'est d'abord une récapitulation de ce que nous avons déjà vu. Je pense que ça n'est pas inutile puisque nous nous retrouvons de mois en mois. Et puis, ce sera un résumé de ce qu'on trouve au chapitre 14 et 15 du livre de McIntyre. Et puis ensuite, nous pourrons dire quelques mots et échanger à partir de l'extrait Étranger dans la cité que j'ai distribué. Donc, nous nous souvenons tout d'abord que McIntyre a caractérisé le débat moral aujourd'hui, la situation qui est la sienne aujourd'hui, en avançant que ce débat aujourd'hui, il est insoluble, pas indissoluble. Il y aura peut-être plusieurs fautes d'orthographe ou de, voilà, de syntaxe dans ce que j'ai, voilà, dans ce que j'ai écrit. Donc, c'est un débat insoluble, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le conclure et il est impossible d'arriver à un consensus fondé en raison. Dans ce contexte-là, c'est-à-dire un contexte où on ne peut pas conclure le débat moral, en tout cas en s'appuyant sur des arguments rationnels, le rapport social ressort davantage de la manipulation que de l'argumentation. Il s'agit toujours de convaincre l'autre, mais autrement que en argumentant de façon rationnelle à partir de bases, de principes qui sont acceptés par les uns et par les autres. Alors, est-ce que le discours éthique n'est qu'un stratagème pour imposer à autrui des préférences qui sont des préférences individuelles? Vous rappelez peut-être que c'est ce que McIntyre appelle une conception émotiviste de la morale. Faut-il donc renoncer au débat moral, mettre bas les masques, un peu dans la perspective de ce qu'un philosophe comme Friedrich Nietzsche propose. Ou plutôt, et c'est bien sûr la position de McIntyre, s'agit-il de revenir à une tradition ancienne qui donne son vrai sens au débat moral, un sens aujourd'hui oublié, et le représentant de cette tradition ancienne, McIntyre dit aussi tradition classique, le plus éminent serait le philosophe Aristote. La tradition, cependant, dont il s'agit, lui est antérieure et Aristote a une postérité qui n'a pas fait que répéter Aristote, qui l'a actualisé dans des contextes nouveaux, qui parfois l'a dépassé, voire l'a contesté sur certains points. En tout cas, cette tradition morale ancienne, dont Aristote est un des auteurs clés, elle est centrée sur la considération des vertus personnelles. Ces vertus donnent leur sens aux lois dans cette tradition et non pas l'inverse. C'est-à-dire, ce n'est pas la loi qui donne la valeur aux vertus, comme par exemple dans l'éthique stoïcienne et kantienne, où on part de la considération de la loi pour définir la vertu comme étant la conformité aux lois et non pas à l'inverse en partant de la considération des vertus pour la faire suivre de la considération des lois qui permettent aux vertus de s'implanter et de se développer. De manière un peu plus concrète et historique, la tradition dont il s'agit est une tradition qu'on peut faire remonter jusqu'aux temps héroïques, ceux évoqués par Homère. Dans ce premier cadre historique, la vertu, elle se présente à nous comme une qualité qui permet à l'individu de jouer un rôle dans une société donnée. Et on voit d'emblée un contraste avec la manière dont spontanément l'homme contemporain pense la morale de manière individuelle. C'est plutôt la société qui est à la remorque de l'individu que l'individu qui se pense à partir de la société. La force d'Achille, l'hospitalité de Pénélope, le conseil de Nestor sont chez eux correspondent chez eux à des capacités qui sont autant de vertus qui leur permettent de tenir le rôle qui doit être le leur dans leur communauté respective. Et puis, deuxième étape dans ce parcours un peu cavalier de l'histoire de la morale et du développement de cette tradition à laquelle il faudrait revenir, selon Mackintyre, c'est Aristote lui-même. Alors, Aristote lui-même définit sa morale sans la détacher d'un cadre sociétal précis, qui est celui de la cité grecque, donc un cadre qui est inaccessible aux esclaves ou aux barbares, et c'est une difficulté qu'on peut avoir lorsqu'on lit Aristote, mais sans qu'elle soit détachée de ce cadre social, c'est la morale de l'homme honnête, du citoyen honnête d'Athènes. La morale est cependant définie plus largement dans le cadre d'une conception de la nature humaine qui est finalisée par la visée, en grec on dit le telos, d'une vie bonne, celle où l'on est heureux en faisant le bien. Et à partir de là, Aristote établit une table des vertus, et en particulier la vertu de justice, la vertu de sagesse pratique, vous vous souvenez qu'en grec on dit phronesis, ou la vertu d'amitié, hein, qui lie ceux qui font allégeance au même bien commun, dont est exclu l'amitié, l'homme donc qui ne partage pas la même conception et le même désir du bien commun qui sont les miens. Troisième étape, c'est celle que nous avions évoquée à la dernière séance, celle du Moyen Âge. La tâche des maîtres du Moyen Âge fut d'inculturer la foi, dirions-nous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils s'interrogent sur la manière de concilier la vie qu'on appelle depuis le Moyen Âge la vie théologale, la vie de foi, d'espérance et de charité, de concilier cette vie et ses exigences avec les vertus politiques, les vertus du citoyen, dont quatre cardinales que sont celles de justice, de prudence, de tempérance et de courage. Et dans ce projet des maîtres du Moyen Âge, qui est celui d'inculturer la foi, qui est celui de concilier la vie théologale et la vie du membre de la cité, Aristote se présente comme une ressource indispensable pour mettre en œuvre ce projet. C'est un Aristote que l'on connaît par bribes jusqu'à l'époque de saint Thomas, et puis qui, à partir de la fin du XIIe, début du XIIIe siècle, juste avant Thomas, est connu à travers l'ouvrage fondamental qu'est l'Éthique à Nicomaque. Donc, au Moyen Âge, on lit donc l'Éthique à Nicomaque, on la commente, on pense la morale en s'aidant d'elle, c'est ce que fait saint Thomas. Mais Aristote est aussi dépassé, voire même contesté, par la perspective, bien sûr, d'une béatitude surnaturelle, au-delà même des cadres de notre vie terrestre, à partir de laquelle la structure des récits de vie, des récits exemplaires, et celle d'un voyage vers un but transcendant, transcendant notre vie terrestre, contesté aussi, ou dépassé, voire contesté par le sens du péché, l'exigence de l'humilité qui lui est liée, ainsi que par l'appel à un amour universel du prochain, incluant le pardon des ennemis. La communauté nouvelle qu'il s'agit donc de construire à cette époque, c'est une communauté qui est d'abord une communauté de foi, chrétienté, et donc une communauté de réconciliation de personnes rassemblées par un pardon qui est reçu et partagé autour de la croix, ce qui bien sûr dépasse les perspectives d'Aristote et peut-être même sur un certain nombre de points les conteste. Voilà ce que nous avons vu au cours des trois séances passées et nous allons maintenant un peu plus loin dans la découverte de ce que McIntyre enseigne dans son livre Après la vertu. Je vais reprendre ici ce qu'il expose au chapitre 14 et 15 de son ouvrage. Finalement, après d'abord ce diagnostic posé relativement à la situation de la morale aujourd'hui, et puis ce parcours historique qui nous a fait remonter à Homère, et puis étudier ce que disait Aristote et la manière dont il a été compris en contexte de chrétienté, que peut-on dire de la nature des vertus? Parce que ce qu'on doit constater, c'est que dans l'histoire de cette tradition morale, à laquelle... Ah ben, je n'ai pas fait défiler le texte, excusez-moi. Voilà. Dans l'histoire de cette tradition morale à laquelle McIntyre a voulu nous rattacher, on découvre une grande diversité et même des contradictions dans les différentes tables des vertus qu'on y voit dressées donc à différentes époques. Hein, ce qui serait plutôt un défaut comme... L'humilité, chez Aristote, devient une vertu clé, en christianisme, par exemple. Est-il possible donc de définir de façon générale ce que l'on va appeler vertu? Pouvons-nous, écrit McIntyre, extraire de ces théories rivales un concept central, unitaire des vertus. Et c'est ce à quoi va s'employer McIntyre pour aboutir à, je le cite encore, un concept complexe dont les différentes parties dérivent des différents stades, pardon, de la tradition. Vous voyez encore une fois l'importance dans la démarche de McIntyre de l'étude de l'histoire de la philosophie. Et donc, elle va permettre, cette histoire, d'aboutir à un concept complexe, donc il va intégrer différentes données, et ces différentes données, ces différentes parties du concept de vertu dérivent chacune des différents stades de la tradition que nous avons évoqués. Trois stades. Exactement. Le premier va apporter la définition de ce que McIntyre appelle une pratique. Alors il va définir de façon très précise ce qu'il appelle une pratique, et cette définition va être la première composante de sa compréhension de la vertu. Le second stade permettra d'ajouter à ce premier élément, celui d'ordre narratif d'une vie humaine. Et le troisième stade, enfin, celui de tradition morale. Donc, pour comprendre ce dénominateur commun de la vertu dans la tradition ancienne, classique, de la morale, il faudra se mettre au clair sur ce qu'est une pratique, sur ce qu'est l'ordre narratif de la vie humaine et ce qu'est une tradition morale. D'abord, et c'est ce que McIntyre étudie tout au long du chapitre 14 de son ouvrage, une pratique. Alors, il la définit de la manière suivante, et là c'est assez important que vous ayez le texte sous les yeux parce que la définition est dense. Une pratique, c'est toute forme cohérente et complexe d'activité humaine coopérative socialement établie par laquelle les biens internes à cette activité sont réalisés en tentant d'obéir aux normes d'excellence appropriées, ce qui provoque une extension systématique de la capacité humaine à l'excellence et des conceptions humaines des fins et des biens impliqués. Alors, on va bien sûr reprendre cette première définition qui est complexe, hein. Alors, une pratique, bien sûr, c'est une forme d'activité. Une forme d'activité qui a sa cohérence et qui intègre des éléments divers. Donc, une forme cohérente et complexe d'activité humaine, à laquelle une pluralité d'individus coopère. Hein, donc, c'est une forme d'activité humaine coopérative. Et pour que ces individus puissent coopérer de manière suivie, que cette activité puisse s'inscrire dans la durée, elle doit être aussi socialement établie. Ça veut dire qu'elle n'existe pas sans une institution qui la porte. Bon, je pense que maintenant, le début de la définition est plus clair. Une forme cohérente et complexe d'activité humaine, coopérative, socialement établie. Et qu'est-ce qu'elle permet, cette forme cohérente et complexe d'activité humaine, coopérative, socialement établie? Eh bien, par cette activité, les biens internes à cette activité. Alors, il faudra nous entendre sur ce type de biens, hein, qui sont internes à l'activité, c'est-à-dire que c'est l'activité elle-même qui, dans son déploiement, fournit les biens, hein, dont il s'agit, des biens internes à l'activité. Ils sont réalisés, mais pas n'importe comment, pas de façon arbitraire, hein. Ils sont réalisés lorsque toutes les personnes qui coopèrent à la dite activité obéissent, ou tentent au moins d'obéir, à des normes d'excellence appropriées. Et lorsque les individus tous engagés dans cette activité obéissent à des normes d'excellence appropriées, cela provoque une extension systématique de la capacité humaine à l'excellence, hein, c'est-à-dire que le fait d'obéir aux normes d'excellence va étendre la capacité de production des biens internes. Et à leur qualité excellente, autant qu'une extension des conceptions, des fins et des biens impliqués. C'est-à-dire qu'on va voir une activité qui va soumettre les individus à des normes, mais si les individus observent ces normes, alors la production des biens eh bien, aboutit à l'amélioration, enfin, s'améliore. Les biens produits plutôt s'améliorent, et par ailleurs, la conception que l'on a des fins et des biens internes va elle aussi s'étendre. Alors, ce que je dis là peut paraître un peu abstrait, c'est rapide, c'est complexe, il y a plusieurs choses, vous avez peut-être, et c'est tout à fait normal, du mal à suivre, mais ça s'éclaire lorsque on se réfère à des exemples plus concrets, comme celui d'un sport, comme celui d'un art, comme celui d'un métier, comme celui d'une science, comme celui de la vie familiale ou de la vie politique. Alors, prenons l'exemple d'un art, par exemple. Effectivement, si on prend l'art de la musique, c'est une activité humaine, bien sûr, c'est une activité humaine qui a sa cohérence et qui a sa complexité. C'est une activité humaine à laquelle une pluralité d'individus coopèrent sur plusieurs générations. Donc on a bien une forme cohérente, complexe d'activité humaine coopérative. Elle est socialement établie, hein, pour que les choses puissent s'enseigner, puissent se transmettre. Il faut qu'il y ait des institutions qui l'apportent, il faut qu'il y ait des conservatoires, il faut qu'il y ait des écoles d'art. Bon. Donc elle est socialement établie et bon, il faut que ces écoles, ces conservatoires soient soutenus par l'État, par les collectivités, etc. Ça suppose une organisation économique, etc. Hein. Et cette activité, elle comporte un certain nombre de biens internes. Pourquoi est-ce que je fais de la musique? C'est pas simplement pour créer un fond sonore qui me permet de travailler, par exemple, dans de bonnes conditions, mais je tire plaisir de la musique en elle-même. Hein, il y a donc des biens internes à cette activité, et ces biens internes, ils sont réalisés en obéissant à des normes d'excellence. Bon, on doit répondre à certains principes qui vont permettre d'améliorer la qualité des œuvres. Et lorsque cela se passe, eh bien, du fait même de l'histoire de la musique, on a une extension de la capacité humaine à l'excellence visée. Hein. Bien sûr, on n'a pas, on n'assiste pas dans l'histoire à l'apparition des cantates de Bach tout de suite au début de l'histoire de la musique. Peut-être, bien sûr, que une fois des sommets comme la musique de Bach atteints, on ne va pas faire nécessairement mieux, mais on va faire autre chose. Et faire autre chose, c'est aussi provoquer une certaine extension de des capacités hein, de production. Et puis la conception même de la musique, les théories musicales elles-mêmes vont évoluer, peut-être aussi les fins qu'on va assigner à la musique. Je ne sais pas, peut-être qu'on aura une conception aujourd'hui plus, j'allais dire, plus démocratique, plus accessible à un grand nombre de la musique et pas réservée à la Chapelle des Princes, par exemple. Ça, c'est un exemple que je donne, que je trouve dans l'instant. On pourrait sans doute en trouver d'autres. Je pense que, bon, on pourrait dire la même chose du sport, hein, le fait que dans un sport, c'est une activité humaine, complexe, où coopère une pluralité d'individus qui suppose des clubs, qui suppose des fédérations de clubs. Et on voit bien que y a certaines règles d'excellence auxquelles on se conforme. Et lorsque un champion arrive à battre certains records, par là même, la discipline sportive évolue. Voilà, je pense que, ayant dit tout cela, les choses sont un peu plus claires. On voit un peu ce que McIntyre entend par le mot de pratique. Et il souligne que l'excellence visée par la pratique est tout à la fois celle d'un produit, pourrons dire, ou d'une activité qui peut être une activité donnée, et puis aussi d'un type de vie qui est une partie de la vie humaine. Lorsque le sportif, l'artiste, le scientifique s'engagent dans leur discipline, ils s'y engagent totalement, même si ce n'est pas toute leur vie, hein, mais c'est aussi une manière de vivre. Ce n'est pas simplement le fait de produire quelque chose, mais c'est tout un comportement qui engage la personne tout entière, et on va y venir aussi, qui crée un certain type de relation entre les personnes qui s'y sont engagées. Une pratique, écrit McIntyre dans le texte que vous avez sous les yeux, suppose des normes d'excellence, elle suppose bien sûr l'obéissance à ces règles, et elle suppose la réalisation de biens. Il suffit pas seulement d'avoir des normes, de s'y conformer, mais on espère que la pratique va aboutir à des œuvres, à des activités données. Entrer donc dans une pratique, c'est accepter l'autorité de ces normes et l'imperfection de mes actes selon ces normes. Si j'entre dans la pratique, je commence à exercer un sport, je commence à faire du piano, je commence. Eh bien, il faut qu'au début, j'accepte l'autorité de normes que je n'ai pas créées et que j'accepte de m'améliorer au regard de ces normes. Et donc à soumettre mes attitudes, mes choix, mes préférences, mes goûts à ces normes hein, qui définissent couramment, communément et partiellement cette pratique. Comme je l'ai remarqué, c'est McIntyre qui parle, les pratiques ont une histoire, les jeux, les sciences et les arts, les disciplines artistiques, sportives, scientifiques, ont tous une histoire. Les normes ne sont donc pas à l'abri de toute critique. Il y a bien des normes. Ça ne veut pas dire qu'il y a bien des normes, il y a bien une obéissance requise à ces normes. Ça ne veut pas dire que ces normes soient hors de toute discussion. Hein, on sait bien, pas, en science, on dit que le propre d'une vérité scientifique, au sens que l'on donne à ce mot aujourd'hui, c'est d'être justement contestable, hein, de donner prise à la contestation, à la critique, être dépassé, falsifiable, dit-on. Hein. Donc les normes ne sont pas à l'abri de toute critique, mais nous ne pouvons pas être initiés à une pratique donnée sans accepter l'autorité de ce qu'on estime comme les meilleures normes établies, qui recueillent un certain consensus et qui permettent donc d'être soutenues par, d'être portées par des institutions dans une société donnée. Alors, on a vu, et si on expliquait encore un peu mieux les choses, que McIntyre parlait des biens internes aux pratiques. On a déjà abordé la chose, je crois peut-être que j'y suis. Enfin, je l'ai fait trop vite ou même pas du tout, mais en tout cas, c'est une question, la question des biens internes aux pratiques, très importante pour comprendre la théorie de l'action chez Aristote. Hein. Les pratiques vertueuses sont des pratiques qui apportent en elles-mêmes leur propre bien. Hein. C'est l'exercice qui apporte le bien visé. Alors, les biens internes aux pratiques, on pense à la science, on pense au sport, sont le résultat d'une compétition pour l'excellence. Ça veut dire que, eh bien, on essaie de faire de son mieux et souvent, on y est stimulé par une compétition, compétition sportive, compétition sélection pour entrer dans une école donnée. Mais la réalisation de ces biens internes est un bien pour toute la communauté qui participe à la pratique. On n'est pas tous champions olympiques, mais la performance du champion olympique, elle va contribuer au progrès de toute la discipline sportive. L'excellence du pratiquant, c'est le terme est le mien, je pense que vous voyez de quoi il s'agit, va faire progresser toute la pratique au bénéfice de tous les pratiquants de la même pratique, même s'ils n'ont pas tous été sélectionnés pour participer à la finale ou pour intégrer telle ou telle école. Contrairement aux biens externes qui sont éventuellement obtenus à l'occasion de la pratique par tel ou tel champion, par tel ou tel candidat sélectionné, ces biens externes sont la gloire. Bon, quand on a remporté la victoire, ou quand on a fait telle ou telle découverte, ou quand on a eu la première place à un concours, les revenus obtenus par le succès, par exemple, dans la compétition, c'est l'argent que peuvent se faire aujourd'hui certains sportifs. Mais la gloire, l'argent, la renommée, tout cela, ce sont des biens réels. Hein, c'est pas mauvais d'avoir de l'argent si on en fait un bon usage. C'est peut-être pas mauvais non plus d'être bien considéré dans la société où on vit. Ce sont des biens réels, mais ce sont des biens externes aux pratiques. Hein. C'est pas parce qu'on me donne une médaille ou qu'on me donne un prix que la discipline à laquelle j'ai coopéré va progresser. C'est le travail, l'exercice même de cette discipline auquel je me suis livré, qui vont faire progresser la discipline et cela au bénéfice de tous ceux qui pratiquent la même discipline. De tout cela résulte une première partie de la définition de ce qu'est une vertu qui correspond à ce que j'ai appelé tout à l'heure un premier stade. Une vertu, c'est le début de la définition proposée par McIntyre, c'est une qualité humaine acquise, Hein, il faut que j'entre dans une pratique, que je m'y exerce, ça demande du temps, hein, c'est pas inné. Une vertu est une qualité humaine acquise dont la possession et l'exercice tendent à permettre l'accomplissement des biens internes aux pratiques et dont le manque rend impossible cet accomplissement. Une aptitude musicale, eh bien, c'est une qualité humaine acquise, ça demandait du travail, et je m'y suis exercé pour un certain nombre de biens internes, ça va être l'exécution d'une belle œuvre ou la composition d'une belle œuvre, alors que le manque de cette vertu, c'est ce qui va rendre plus difficile, voire impossible, l'accomplissement des biens internes aux pratiques. Nous devons accepter comme composante nécessaire de toute pratique dotée de biens internes et de normes d'excellence les vertus de justice, de courage et d'honnêteté. Quelle que soit la pratique, que ce soit un sport, un art, que ce soit même la vie d'un foyer ou la vie de la cité, au sens où Aristote les entend. Il s'agit là aussi du pratique, on pourra parler de pratique politique ou de pratique domestique. Eh bien, quel que soit donc le type de pratique, elle appelle ces vertus que sont les vertus de justice, de courage et d'honnêteté, c'est-à-dire qu'elles supposent un certain type une certaine manière de me comporter et de nouer des relations avec autrui. Vertu de justice, c'est-à-dire que toute pratique suppose que l'on rende son dû à autrui. Hein. Toute pratique appelle une forme d'impartialité dans les évaluations des conduites. Hein, évidemment, si je commence à donner un prix à n'importe quel candidat sans tenir compte de la qualité réelle de ce qu'il a produit, ben, la pratique, elle ne va pas pouvoir progresser. Donc, vertu de justice, vertu de courage, parce que celui qui s'y implique, celui qui coopère, eh bien, il doit toujours assumer dans son existence concrète un certain nombre de risques. Ça peut être celui de se tordre la cheville quand on fait du sport, ou ça peut être celui de recevoir un coup de poing quand on a été un arbitre impartial. Enfin, le courage est toujours impliqué. Et puis, l'honnêteté. Ne pas tricher quant aux règles de conduite, parce que, évidemment, je peux remporter une partie d'échecs en trichant, je peux remporter une compétition sportive en trichant, alors j'obtiendrai le bien externe de la pratique, c'est-à-dire j'obtiendrai peut-être le prix, j'obtiendrai la médaille, mais je n'obtiendrai pas le bien interne, qui est celui d'avoir bien joué dans le match, ou voilà, et je n'aurai évidemment pas fait progresser la discipline comme telle. Donc, ce que McIntyre a dégagé à partir de cette première composante de la définition de vertu, c'est non seulement une définition générale, mais aussi, découlant de cette définition, trois vertus qui vont se retrouver dans toutes les tables de vertus établies dans le cadre de la tradition que j'ai dite. Justice, courage, honnêteté. Une pratique, insiste McIntyre, ne se réduit jamais à un ensemble de savoirs techniques, on le voit. Bien sûr, les savoirs techniques sont toujours supposés, qu'il s'agisse de sciences, qu'il s'agisse de sport, qu'il s'agisse de vie familiale ou de vie dans la cité, il y a certaines techniques à maîtriser toujours mieux et à améliorer, on l'a vu. Mais la pratique implique toujours aussi une mise en relation avec les personnes qui participent aujourd'hui ou qui y ont participé autrefois. Hein, c'est en écoutant la musique de Mozart, la musique de Bach, que je deviens bon musicien. C'est en pratiquant Aristote ou Kant et les autres que je deviens bon philosophe. Cette pratique a une histoire qui implique donc la bonne volonté, la liberté des individus. La pratique ne se réduit pas donc à un ensemble de savoirs techniques, elle ne se confond pas non plus avec les institutions qui sont, on l'a vu, le soutien nécessaire de ces pratiques. Les institutions, peuvent nous gratifier de biens externes aux pratiques, quand on a mérité ces pratiques, le prix accordé par exemple au lauréat. Mais les institutions, donc, si elles sont nécessaires aux pratiques, si elles soutiennent les pratiques, elles les menacent de ce fait même, puisque la recherche des biens externes dispensés par elles peut s'effectuer. Enfin, le fait de rechercher ces biens externes peut s'accompagner d'un détriment des biens internes à ces pratiques. Hein, l'exemple donné par McIntyre est le suivant, les idéaux qui peuvent être des idéaux politiques, par exemple, ou la créativité dans un art donné, vont être compromis par le goût de l'acquisition. Hein. Il s'agira moins de faire de la bonne musique que d'avoir beaucoup d'entrées dans la salle de musique. L'intérêt coopératif pour les biens communs, hein, si on a conscience d'appartenir à une communauté partageant un même but artistique, scientifique, politique, cet intérêt coopératif pour les biens communs peut être compromis par la compétitivité. Hein. Je vais essayer d'éliminer mon adversaire, je vais faire un croque-en-jambe avant la course sportive. J'aurai peut-être de cette manière-là plus de chances d'avoir moi-même le premier prix, mais le sport ne va lui-même rien y gagner. Sans les vertus même, les pratiques sont corrompues par les institutions. Les institutions, elles ont tendance à fonctionner par elles-mêmes et elles peuvent être corrompues lorsque les individus les manipulent pour autre chose que ce qui est défini comme le bien commun. Et donc le manque de vertu, le vice, peut corrompre les institutions et par là même corrompre les pratiques. Bon, il y a peut-être une certaine dégénérescence à certaines époques de l'art qui accompagne une certaine dégénérescence des institutions et cela est peut-être dû, assurément dû selon McIntyre, à une dégénérescence dans le domaine de la moralité. Ce qui l'amène à conduire, à écrire, nous ne pouvons écrire une véritable histoire des pratiques et des institutions sans écrire une histoire des vertus et des vices. Alors André, qui m'écoute, va noter et souligner cette phrase, hein, parce que en travaillant en théologie spirituelle et en préparant une thèse, c'est bien ce qu'il fait, enfin, il prétend faire de l'histoire des spiritualités, mais c'est donc en particulier une histoire des vertus et des vices, et c'est pas une histoire sans incidence sur la connaissance réelle qu'on peut avoir de l'évolution des pratiques et des institutions. Hein, pour avoir une bonne connaissance, une connaissance historique valable, je dirais, de l'évolution des pratiques et des institutions, mettre la moralité des personnes et donc leur liberté entre parenthèses, ne pas les prendre en considération, ne pas les étudier, eh bien, ce sera dommageable. Donc, c'est important de faire de l'histoire des spiritualités. Bon, je prêche bien sûr pour ma propre boutique ici. Bakin, d'ailleurs, ici comme ailleurs, propose à nouveau de remplacer ce qu'il appelle la téléologie biologique d'Aristote par une téléologie sociale. Je l'inscris pour être, je le mentionne pour être honnête. Hein, McIntyre, bon, en tout cas, un rapport pas tout à fait simple avec Aristote. J'avoue, comme je l'ai déjà fait, que je ne comprends pas tout à fait ce qu'il appelle téléologie biologique chez Aristote. Est-ce que ça signifie qu'il faut renoncer à articuler une théorie du vivant, disons la biologie, une théorie politique, la sociologie? Si c'est le cas, on comprend un peu effectivement Pourquoi on affirme ce genre de choses dans le cadre des débats suscités notamment par la notion de race, hein, qui est, les historiens l'ont bien montré, une notion issue des pratiques esclavagistes à l'époque moderne, ou au sexisme par exemple, hein, c'est-à-dire que la biologie des personnes, eh bien, elle va déterminer leur place dans la société, malheureusement aussi, elle va justifier la domination d'une population par une autre population parce que la première serait considérée comme inférieure à la seconde. Hein. Donc c'est l'esclavage, c'est le colonialisme, c'est tout ce que vous voulez. Est-ce que, et de fait, historiquement, ça a pu s'autoriser d'une certaine théorie générale du vivant, des espèces, etc. Hein, voilà. Alors, bon, mais tout ce que je vous dis là, ce sont des suppositions de ma part sur les raisons de la critique de McIntyre que je ne comprends pas très bien. Mais les choses vont peut-être un peu se préciser dans l'introduction de ce qu'il va nous dire de l'histoire et du récit en morale dans le chapitre suivant. En tout cas, McIntyre insiste sur ce qu'il intègre de l'héritage aristotélicien dans sa propre théorie, à savoir la liberté, le volontariat, l'articulation entre les vertus intellectuelles, hein, la sagesse pratique, comme la phronésis d'abord, les vertus du caractère, comme la justice, la force, la tempérance, les capacités naturelles, hein, qui doivent être aussi prises en compte. L'intégration des passions à la morale, on l'a rapidement évoqué la fois passée, Aristote intègre les passions et ne les, c'est pas une morale contre la passion telle qu'on la voit chez les stoïciens, et puis la structure du raisonnement pratique, qui en particulier aboutit non pas à une conclusion théorique, mais à l'agir lui-même. Cependant, est-ce qu'on peut en rester là quand on définit les vertus? On peut procéder à une critique des pratiques, parce que c'est pratiques, elles ne sont pas nécessairement, elles n'aboutissent pas nécessairement à de bons effets. Hein. Et par ailleurs, ben, on peut avoir un mauvais usage, faire un mauvais usage de la musique, on peut faire un mauvais usage des sports, on peut. Et puis, les pratiques peuvent entrer en conflit entre elles. Et dans ce conflit, peut-être que ce qui est le plus important peut être éliminé par ce qui l'est moins. Si les vertus sont donc identifié par les pratiques, si on comprend, on commence à comprendre ce qu'est une vertu en réalisant ce qu'est une pratique, l'exercice des vertus ne peut pas se limiter au contexte que sont les pratiques. Il faut aller se demander, jusqu'à se demander avec Aristote, non pas seulement qu'est-ce que c'est qu'une pratique, qu'est-ce qui est nécessaire à une pratique, qu'est-ce qui fait que la pratique progresse, mais de façon plus fondamentale, quelle est la vie bonne pour l'homme? Comme on avait vu que même si ce que dit Aristote correspond à une société précise, la société athénienne, ça s'inscrit dans le cadre plus large d'une conception de la nature humaine. Alors on doit aller jusqu'à poser la question non plus qu'est-ce qui fait qu'une pratique progresse et qu'est-ce qui fait qu'une pratique est bonne, mais quelle est la bonne vie pour l'homme? Et une nouvelle vertu, celle de fidélité et de constance, dit McIntyre, va être définie par rapport à l'ensemble d'une vie humaine. D'où la question, peut-on aller jusque-là? Est-il rationnellement justifiable de concevoir chaque vie humaine comme une unité? Pas simplement comme un concept abstrait général, mais est-ce que ma vie humaine, dans la réalité, constitue une unité? De sorte qu'il va m'être possible de dire que cette vie est bonne ou pas, qu'elle aura été bonne ou pas une fois qu'elle aura été menée. Hein? Est-ce que c'est rationnellement justifiable de concevoir chaque vie humaine comme une unité, hein? Et ainsi de pouvoir définir chaque vie pensée comme unité, comme dotée de son bien, qui va nous permettre de pas seulement de parler de telle ou telle pratique bonne, mais de la vie humaine tout entière comme bonne. Et alors, de voir la fonction des vertus comme étant de permettre à un individu de faire non plus des œuvres bonnes dans telle ou telle pratique, mais de faire de toute sa vie un type d'unité qu'on dira bon ou meilleur qu'un autre type d'unité qu'on dira moins bon ou mauvais. Et c'est ce que McIntyre, ce sera plus court, le chapitre 15, va essayer de mettre au point, voilà, dans le chapitre suivant. Et il va intégrer deux autres éléments à sa compréhension de la vertu, l'élément de l'unité d'une vie humaine et l'élément de tradition. C'est difficile aujourd'hui de parler d'une vie humaine comme d'une unité, en raison de la liquidation, pardon, du soi dans la fragmentation de la vie moderne, où les individus se spécialisent de plus en plus et cloisonnent de plus en plus leur activité. En raison de l'atomisation de la vie humaine aussi dans des philosophies comme la philosophie analytique, par exemple, et McIntyre ici critique la notion d'acte de base qu'on trouve dans la philosophie analytique, en disant un acte de base, c'est un acte ou d'acte en soi. Hein, en philosophie analytique, on va essayer de réfléchir aux composantes d'un acte de base ou d'un acte de soi, isolé de tout contexte, isolé de toute histoire, de toute séquence d'actes. Eh bien, le problème, c'est que un acte de base, un acte en soi, isolé de toute histoire, c'est proprement inintelligible. Hein? Un acte est toujours un moment dans une ou plusieurs histoires réelles ou possibles. Donc, un certain type de philosophie va aussi rendre difficile l'appréhension de la vie humaine comme un tout. C'est le cas des philosophies analytiques, c'est aussi le cas de certaines philosophies existentialistes, comme celle de Sartre que nous avons déjà évoquée antérieurement, où le moi authentique est opposé au rôle social, et donc où l'agir du moi est extrait de toute continuité historique ou même continuité d'une histoire personnelle. Quoi qu'il en soit, dans la conception prémoderne des vertus, donc jusqu'à Aristote, il y a la conception d'un soi dont l'unité, qu'est-ce qui fait l'unité du soi finalement? Eh bien, c'est celle d'un récit qui relie la naissance, la vie et la mort, comme un commencement, un milieu et une fin. Et McIntyre définit l'histoire comme récit dramatique. Je pense qu'il faut entendre par là que c'est un récit qui engage la liberté de ces personnages, un récit dramatique vécu. Il s'oppose à cette idée selon laquelle le récit serait une création qui s'ajouterait de façon artificielle à la vie. Non, c'est notre vie elle-même qui est un récit. Récit dramatique vécu dont les personnages sont aussi les auteurs. D'où un concept du soi qui est un concept narratif. L'homme est par essence un animal conteur d'histoire. Un homme ne vit pas sans raconter et sans se raconter. Dans un récit qui est marqué par l'imprévisibilité, c'est un récit qui est ouvert, un futur qu'on ne connaît pas encore, et une téléologie, un avenir qu'on espère bon et vers lequel on s'oriente. On ne peut penser l'acte humain ou la personne qu'à partir d'une histoire dans laquelle ils s'inscrivent. Je suis responsable de mes actes dans l'histoire et je peux demander compte de leur responsabilité à ceux dont l'histoire croise la mienne. Il n'y a pas d'acte qui ne soit acte humain qui soit imputable à une personne. Mais cette imputabilité, je peux la penser, je peux en rendre compte à partir d'une histoire. Mon histoire personnelle, elle vient s'enchâsser dans d'autres histoires. Hein, et il y a présupposition mutuelle entre le récit de ma vie, l'intelligibilité que je peux avoir de ma vie, de qui je suis, la responsabilité qui est la mienne, et donc l'identité du soi. L'unité d'une vie individuelle est celle d'un récit incarné dans une vie unique. Alors, peut se poser la question, quel est le bien pour moi? Comment puis-je vivre au mieux, pardon, cette unité et la compléter et la faire progresser? Quel est le bien pour l'homme? Alors, cette question a effectivement un sens. Et elle est un peu différente de la première. Quel est le bien pour moi? Et puis la question plus générale, quel est le bien pour l'homme? Et peut-être que le sens de cette deuxième question se comprend à partir de la première, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ont en commun toutes les réponses à la question quel est le bien pour moi? Quand un homme s'interroge sur ce qu'est le bien pour lui, ce qui va rendre sa vie conçue comme une unité, comme bonne, eh bien, il dit quelque chose où peuvent se rejoindre tous les hommes, non pas dans ce qui fait la particularité de son existence, mais il y a quelque chose de commun dans dans les critères dont il va user pour dire que sa vie est bonne. L'unité d'une vie humaine est l'unité d'une quête narrative, quête qui nous apprend progressivement ce que nous cherchons et ce que nous sommes. Je pars pas d'un savoir tout fait de ce que va être le bien pour moi, je pars pas non plus d'une connaissance toute faite de ce que je suis et de ce que l'éternité fera de moi, mais c'est progressivement je découvre ce que je cherche, ce que je suis. Et il faut donc considérer un deuxième stade dans la définition de la vertu. Donc on va ajouter quelque chose à ce qu'on a déjà dit. Les vertus sont ces dispositions qui non seulement soutiennent les pratiques et nous permettent d'accéder aux biens internes à ces pratiques, ça c'est ce qu'on a vu antérieurement, mais qui aussi nous soutiennent dans la quête du bien, en nous permettant de triompher des dangers et en accroissant la connaissance que nous avons du bien et de nous-mêmes. Et ça, c'est donc la prise en compte de l'historicité de la personne et de l'importance du récit dans la vie humaine. La bonne vie pour l'homme est une vie passée à la recherche du bien pour l'homme, et les vertus nécessaires à cette recherche sont celles qui nous permettent de comprendre tout ce que la bonne vie pour l'homme peut être. Alors là, on va rajouter aux vertus qu'on a déjà énoncées, toutes les vertus intellectuelles en particulier, hein, qui vont nous permettre d'avoir une conception juste du bien de ma vie et qui vont me permettre de discerner concrètement les moyens que je dois engager pour progresser vers ce bien que je vise. Par ailleurs, ce sera le dernier point. Je ne peux rechercher le bien ou exercer les vertus seulement en tant qu'individu. Mon histoire, elle est enchâssée dans un ensemble d'histoires. Nous sommes tous porteurs d'une identité sociale particulière. Je ne peux pas me définir indépendamment de la société qui m'a porté et qui me porte. L'histoire de ma vie est toujours enchâssée dans l'histoire de ces communautés dont je tire mon identité. Bien sûr, on a compris que c'était la grande lacune des sociétés contemporaines que de prétendre extraire l'individu des sociétés. En fait, elles ne le font pas, bien sûr, hein, mais ça aboutit à un appauvrissement de la vie sociale et souvent un asservissement des individus à une société qui elle-même s'est considérablement appauvrie parce qu'on n'y pense pas de façon juste et parce qu'on n'y vit pas de façon juste le rapport de l'individu à la collectivité. Cette particularité qui est la mienne, qui est celle de mon appartenance à telle ou telle société, je peux la dépasser, je peux éventuellement la renier, mais je ne peux pas l'oblitérer. Je ne peux pas faire comme si je n'étais pas issu de telle culture, porté par telle culture, etc. Même si je peux critiquer la culture que j'habite, vouloir la dépasser, voilà, éventuellement même la renier. Vouloir, en tout cas, s'en échapper pour un royaume de maximes universelles, et là c'est le philosophe Kant qui est visé, hein, c'est-à-dire de dire, bon voilà, je suis citoyen d'un monde conçu comme une société où les gens sont d'accord sur des principes généraux très abstraits, mais sans dépendance à des sociétés historiques particulières, c'est une illusion souvent aux conséquences pénibles parce que ça va justifier justement dans l'histoire tous les asservissements d'une culture prétendument universelle, tous les asservissements d'une culture prétendue inférieure par une culture qui serait plus évoluée, plus universelle, où on a identifié des principes culturels à des maximes universelles. Je suis donc toujours porteur d'une tradition, je peux, je dois même la critiquer, mais je pars toujours d'elle, et Cette tradition, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de quelque chose de statique, de donné une fois pour toutes, et qu'il s'agirait de défendre en étant un conservateur borné, hein. Mais la tradition, elle est vivante. Et elle est vivante en ce qu'elle porte en elle-même des débats et des conflits internes relatifs au bien qui la constitue. Hein. Une université, c'est un lieu de débat, et on s'interroge sans cesse pour savoir si l'université peut faire mieux qu'elle ne fait, l'université donnée, et qu'est-ce qui fait qu'une université est une bonne université? Donc, ce débat peut se développer à l'intérieur d'une théorie générale de l'université. D'où le stade 3 et la définition 3 de la vertu, qui vont donc nous permettre de donner de la vertu, selon McIntyre, une définition maintenant complète. Les vertus trouvent leur but et leur intérêt, non seulement dans le maintien des relations nécessaires pour que les divers biens internes aux pratiques soient accomplis, justice, sincérité, courage, on l'avait vu, bon, stade 1, dans le maintien de la forme d'une vie où l'individu peut chercher son bien comme bien de sa vie entière. Donc c'est le stade 2 qui tient compte de l'unité narrative d'une vie humaine, mais surtout dans le maintien des traditions qui donnent aux pratiques et aux vies individuelles, conçues dans leur entièreté, leur contexte historique nécessaire. Aux vertus de justice, sincérité, courage, aux vertus intellectuelles, doit s'ajouter le sens des traditions auxquelles on appartient ou auxquels on fait face. Il faut chercher simultanément son propre bien et le bien des traditions dont on est porteur et qui nous portent, jusque dans les situations les plus tragiques où les biens semblent s'opposer au bien et où on est obligé de faire des choix qui peuvent s'accompagner de déchirements ou voilà, qui sont parfois des moindres maux. Voilà, les deux chapitres résumés de McIntyre. L'intégration à la compréhension de la vertu, de la notion de pratique, de la notion d'unité de la vie humaine et de la notion de tradition. Je vous ai distribué non pas le texte de McIntyre qui était long et puis plus complexe encore que ce que j'ai dit, mais quelques pages de deux théologiens qui sont qui appartiennent l'un et l'autre à la tradition méthodiste, qui ne sont pas des théologiens catholiques, Stanley Auerbach et William Willimon, pour lesquels McIntyre est une référence vraiment importante. Alors là encore, il s'agit pas plus que pour McIntyre de les présenter comme d'incontestables maîtres, même si je trouve que ce sont des auteurs extrêmement intéressants. Pour moi, c'est une théologie vraiment vivante et utile aujourd'hui. Mais ce sont qu'elle est, vous l'avez vu quand vous avez lu le texte, leur accent, c'est le fait de dire que l'Église doit exister dans la société civile comme communauté et que l'éthique chrétienne, comme toute éthique bien pensée, est une éthique communautaire. Et donc, c'est une éthique qui doit être portée par la vertu des membres de la communauté, mais c'est aussi une éthique où les membres de la communauté peuvent être des membres vertueux et répondre aux appels de leur vocation s'ils sont portés par toute la communauté. Et donc, la vertu des individus, c'est une question pour toute la communauté. Vous avez vu l'exemple qui a été pris, qui est celui d'une personne qui se pose la question de l'avortement. La question ne doit pas être, mais elle l'est trop souvent. Elle l'est de fait, me semble-t-il, beaucoup dans nos contextes ecclésiaux aujourd'hui. Une question individuelle qui place l'individu devant un choix extrêmement difficile, mais ça doit être l'affaire de toute la communauté. Et ces difficultés personnelles doivent être l'occasion pour toute la communauté de s'interroger sur ce qui va permettre à l'individu de faire ceci ou de faire cela pour répondre à la vocation chrétienne qui est la sienne. Donc il doit pas y avoir de ce fossé qu'on introduit entre exigence individuelle et exigence collective. Le message des béatitudes, disent ces théologiens, c'est un message qui concerne d'abord tout le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi il est délivré à l'indicatif. Ce n'est pas faites ceci ou faites cela, mais je vous dis ce que vous êtes, parce que vous êtes mes disciples. Un peu comme dans Notre Père, Jésus ne dit pas pardonnez, hein, ou il ne dit pas pardonne-nous Père si nous pardonnons, mais il dit pardonnez comme nous pardonnons. Parce que Jésus a pardonné, parce que la communauté qui se rassemble autour de lui est la communauté de ceux qui ont reçu et qui transmettent son pardon. Donc, ce qui me semble particulièrement intéressant, et vous voyez le rapport avec McIntyre, c'est le fait de dire que l'éthique, la morale, doivent être pensées comme appartenance à une communauté et aussi appartenance à une tradition. Où l'exemple des personnes, comme c'était le cas chez Aristote, c'est le deuxième extrait que je vous avais donné dans l'introduction à la cité, où l'exemple donné par les personnes est décisif. Hein. La morale, elle ne s'inculque pas seulement à la lecture d'un livre, mais la capacité morale, elle se développe à travers le contact entretenu avec les personnes, et en particulier avec celles qu'une communauté peut, j'allais dire, canoniser ou reconnaître comme une personnalité éminente. Hein. Là aussi, j'attire l'attention d'André, hein, qui travaille sur l'exemple vertueux donné par un saint comme Jean XXIII. Hein, la référence aux existences concrètes. Reconnue comme porteuse des biens recherchés par la communauté, hein, qui sont ceux de la charité, eh bien cette étude-là, cette étude de ces existences, elle joue un rôle décisif dans la vie des communautés pour que les traditions dont elles sont porteuses puissent être des traditions vivantes. Voilà l'exposé. Si vous voulez, je vais arrêter le partage et il est largement temps que vous puissiez intervenir. Alors, comment est-ce que je peux vous retrouver et puis cesser le... Vous êtes en train de... J'arrête le partage, voilà, et je retrouve avec bonheur vos visages.
Merci beaucoup, frère Gilles. Vous avez l'art de nous
Ah oui,
captiver avec
super.
des notions complexes.
Et simplifié.
Est-ce que je peux vous poser une question? Merci
Bien
beaucoup pour
sûr, oui.
votre exposé. C'est très éclairant les rapprochements entre McIntyre et les auteurs de Étrangers dans la cité. Moi, j'ai lu attentivement là, ces extraits que vous avez envoyés là, de Étrangers dans la cité. J'ai quand même buté sur quelques passages là, où, ben, peut-être à cause de leur ambiguïté là, dans la formulation, là, est-ce que vous avez le texte sous les yeux
Oui,
là?
oui.
À la page 172,
Oui.
les auteurs disent, nous sommes appelés à agir de façon juste, non pas simplement parce qu'un acte peut être démontré comme universellement juste, mais parce que Dieu veut, bon, etc. Puis là, l'autre paragraphe ensuite, une éthique qui se proclame rationnelle et universellement valide est incidemment démoniaque. Bon. Je comprends qu'il y ait dans le contexte de s'opposer à Kant, puis à une façon un peu trop abstraite et décontextualisée là, de faire la morale. Mais je trouve ça, surtout l'autre page 173, la troisième ligne, nous n'affirmons pas que l'éthique chrétienne se fonde sur la rationalité. Il me semble que sur cet aspect-là, ben, dans la mesure où McIntyre suit Aristote, mais la définition des vertus morales, d'agir selon la raison, la rationalité, elle est très importante, là. Alors, ça me fait un peu sursauter, là, ces formules-là des auteurs d'étrangers dans la cité.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Je pense que d'ailleurs, enfin, un catholique ne peut pas être d'accord avec ce qui est écrit
C'est
ici,
ça,
hein.
oui.
Ce sont deux auteurs protestants, et là, ils sont très influencés par Karl Barth, hein, ils le disent. Et donc, ils ont une manière d'opposer morale évangélique et morale, morale oui, je dirais philosophique, qui ne me semble pas recevable. Et alors, bon, en tout cas dans la formulation, alors dans l'intention, je crois comprendre, hein, que c'est effectivement, on voit par exemple comment disons l'Occident aujourd'hui peut imposer certains principes qui offensent d'autres traditions culturelles, et si les traditions culturelles ne rejoignent pas notre organisation sociale, hein, on va estimer ben, que c'est parce que les personnes sont sous-développées, quoi, hein. Alors on comprend bien comment ce qui se dit derrière, et c'est pour ça qu'ils disent. Alors, ils disent incidemment démoniaque. Je pense dire que on n'est pas dans l'ordre de la nécessité, mais ça peut justement, les meilleures intentions peuvent être détournées, hein, et c'est ça, c'est le propre du démoniaque, je pense, hein, c'est de se saisir de peut-être de bonnes intentions, et puis de les détourner de leur but. Mais je pense que c'est pas satisfaisant, parce que ça rend pas assez compte de l'importance qu'il y a, comme on l'a vu chez McIntyre, à la recherche commune d'une vérité rationnelle. Et cette éthique, la référence à une éthique rationnelle peut avoir des conséquences terribles. Le fait aussi de camper sur des positions qui sont des positions qu'on estime être chrétiennes, mais sans référence à la raison, ben on le voit malheureusement trop, trop, trop bien ces dernières années, hein, que ça peut entraîner des catastrophes aussi. Hein, c'est-à-dire que bon, moi je pense que les communautés chrétiennes ont besoin aussi de cette extériorité qui est celle de la société civile. Extériorité pas au sens où on ne partagerait pas les mêmes idéaux, ou qu'on n'aurait pas la même conception de la vie, mais qui nous rappelle des principes communs à notre humanité et les exigences qui leur sont liées. Donc je pense que la théologie morale et cette extériorité qui est celle de la théologie philosophique, enfin, de la philosophie morale, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont en conflit l'une avec l'autre, hein, mais que cette extériorité-là, elle est absolument essentielle à maintenir. Et donc, moi, je dirais que c'est le problème enfin, mais vous aurez peut-être une vision un peu plus nuancée que la mienne, parce que c'est ce que des Européens vont souvent dire à des personnes qui habitent l'Amérique du Nord, c'est-à-dire en Amérique du Nord, vous êtes, en tout cas c'est sans doute le cas aux États-Unis, je ne sais pas si vous diriez la même chose du Canada, mais vous êtes beaucoup plus communautarien que nous, voire communautariste, vous avez une tradition politique différente de la nôtre, et on aura très peur, nous, justement, de passer d'une vision communautarienne à une vision communautariste, et avec un communautarisme, de porter atteinte au bien commun, qui serait bien de la cité, etc. Alors, Auerwas et Winniman ont été beaucoup critiqués à partir de cette idée-là, hein, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne risque pas, dans cette vision des choses, de fonder des communautés qui ne tiennent plus compte du bien commun de la société, et aussi des exigences morales qui lui sont liées. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec votre critique, mais ce que je trouve spécifique, original, enfin que je n'entends pas ailleurs, et que je trouve là très percutant, c'est ce qu'ils disent de la consistance communautaire qui doit être celle des églises. Et si les églises n'ont pas de consistance communautaire, si elles ne sont plus capables aujourd'hui de proposer des modes de vie alternatifs, alors bien, non seulement elles ne elles sont plus des églises vivantes, mais comme ce sont plus des églises vivantes, elles ne rendent pas au monde et à la société le service qu'elles doivent leur rendre. Parce que ces deux auteurs-là sont très soucieux de la mission des églises dans le monde et dans les sociétés. Mais dites, les églises ne peuvent apporter quelque chose que si elles existent comme églises, que si elles existent comme communauté. Et donc, les personnes, dans leur choix éthique, sont portées par la communauté. Ça me semble vraiment très, très important, très important.
Oui. Je suis d'accord avec vous, ils dénoncent très fortement l'individualisme, mais
Oui.
une des critiques qu'on leur a fait, c'est de confondre parfois individualisme et individualité. On a l'impression des fois qu'on perd quelque chose de l'individualité dans leur façon de parler. Ils
Oui.
parlent, quand ils parlent des actes et les actes du peuple, des fois ça paraît un peu exagéré.
C'est vrai.
Mais leur
C'est
livre,
vrai.
j'ai appris hein, que ça s'est vendu à 1 million d'exemplaires, la version
Oui.
originale. Le New York Times a dit d'eux qu'ils étaient les plus grands théologiens du 20e siècle. Moi, je sursaute un peu quand j'entends ça, là. Moi, là où j'ai plus buté, c'est leur interprétation absolument cavalière de Saint-Augustin. Je ne sais pas si vous avez eu des réactions
Oui.
vis-à-vis ça, là, à la page 145, là, quand
Oui.
ils disent... Saint-Augustin s'engagea dans une tentative laborieuse pour résoudre le dilemme humain posé par le sermon sur la montagne en déplaçant ses exigences de l'extérieur et du pratique vers l'intérieur. Ils disent, et le subjectif, une telle interprétation, ils disent, n'est pas corroborée par le texte lui-même dont le rôle n'est pas de cultiver quelque attitude subjective. Moi, j'ai vraiment sursauté quand j'ai lu ça. Je veux dire, je pense qu'ils sont complètement passés à côté, là. Je veux dire, c'est tout à fait central et chez Saint-Augustin et chez Saint-Thomas, l'idée que, dans le fond, il y a une plus grande perfection de la morale évangélique parce qu'elle touche le fort intérieur. Elle ne commande pas seulement des actes extérieurs, mais tu ne tueras pas, mais moi, je vous dis, tu n'auras pas de colère contre ton frère. Tu ne commettras pas l'adultère. Moi, je vous dis, tu ne regarderas pas la femme, une femme en la désirant. Bon, ça touche le fort intérieur. Et lui, de rejeter ça comme subjectif, c'est qu'il passe complètement à côté de ce qui perfectionne la morale évangélique par rapport à simplement la morale de l'Ancien Testament ou une morale de loi, là. C'est grave ce qu'ils font là. C'est épouvantable.
C'est-à-dire que je serais, je comprends ce que vous dites et je pense que vous honorez, ce qu'on peut leur reprocher, c'est de ne pas honorer tout l'enseignement d'Augustin, mais à mon sens quand même, y a une véritable question posée à Augustin et je dirais à l'évolution de la théologie, c'est le fond de leur critique, hein, à l'époque de Constantin et au rapport des communautés chrétiennes et de l'Église à la violence, parce que c'est ça qui est sous-jacent. Et donc le fait que ce que je trouve important dans ce type de critique adressée à un père comme Augustin, c'est de nous dire, on renonce avec Augustin à la possibilité d'une non-violence communautaire. Et non-violence entendue au sens fort du terme, hein, c'est-à-dire pas, je dirais, c'est pas seulement une certaine limitation de la violence, mais c'est le fait de porter communautairement l'exigence du pardon et de l'opposition à la violence par autre chose que la violence. Enfin, là, il me semble qu'il y a une critique qu'il faut entendre, qui est partiellement intégrée, mais dépassée par un disciple catholique d'Auvers, qui est William Cavano, hein, qui William Cavano justement dira par exemple enfin comment dire, il va comment dire intégrer de façon beaucoup plus large, pas seulement la philosophie, mais aussi les époques de chrétienté dans sa pensée, de façon très, très intéressante. Alors que ces auteurs protestants, alors d'abord, ils sont protestants, ensuite, ils écrivent en 1989, je pense qu'ils ont été critiqués aussi et qu'ils ont pu bouger. Ce qui est assez notable du point de vue œcuménique, c'est que ils vont mettre en avant la vie ecclésiale et ça va faire bouger aussi leur ligne, leur position comme théologien protestant. Et là aussi, œcuméniquement, c'est intéressant. Alors moi, je pense que dans ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que la pointe d'Augustin, de son enseignement, enfin, je ne sais pas si c'est la pointe, en tout cas, un des aspects, c'est celui que vous dites, c'est-à-dire le fait d'une voix intérieure, et là c'est profondément biblique, c'est une voix qui est vraiment intériorisée, c'est déjà annoncé par les prophètes, mais c'est réalisé par le Christ. Mais exégétiquement quand même, dans l'interprétation donnée par Augustin, je crois qu'on perd quelque chose du sermon sur la montagne, on perd quelque chose de son ecclésialité. Lorsqu'il dit le serment est un indicatif, et c'est quelque chose donc qui est possible et qui est possible historiquement, pas seulement sur le mode de l'intériorité ou de l'utopie. Je crois que la critique est peut-être injuste, mais elle nous dit quelque chose d'intéressant et quand même. Partiellement vrai, je dirais.
Moi, je fais des recherches là, sur voir un peu plus qu'est-ce que saint Augustin disait par rapport au sermon sur la montagne pour confronter ça. Puis, je suis tombé sur un texte du père Pinkers. Vous connaissez Servet Pinkers, qui est
J'ai
dans
bien connu.
la revue d'éthique et de théologie morale en 2009. Il a fait un petit texte qu'on trouve sur Internet, là, le commentaire du sermon sur la montagne par saint Augustin et la morale de saint Thomas. C'est
Oui.
extrêmement intéressant comment il montre l'interprétation de saint Augustin, comment saint Thomas a repris tout en adaptant un peu là, ces enseignements-là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très éclairant, là, son
Mais
explication.
alors, je pense que vous avez tout à fait raison de dire que l'enseignement de Saint-Augustin est décisif, il est très riche, on y apprend beaucoup de choses. Et par exemple, toute la théologie des dons du Saint-Esprit ou des
Ouais,
béatitudes,
c'est ça.
elle a sa racine là. Hein, et c'est important pour le père Pinkers. Il se réfère beaucoup au père Régamé, hein, qui est un dominicain français, qui développe toute sa théologie spirituelle à partir de là, c'est-à-dire à partir de ce que saint Augustin a développé dans son enseignement du sermon sur la montagne. Donc, les auteurs ne rendent pas compte de la richesse, de l'intérêt de saint Augustin. Ça, c'est hors de contexte. Mais je crois qu'il attire notre attention sur quelque chose qui doit nous interroger quand même.
Y a-t-il d'autres questions, d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir?
Peut-être sur la notion d'église. Je m'excuse, je ne veux pas empêcher d'autres s'ils veulent intervenir, là, mais il y a des auteurs qui ont fait remarquer, bon, ce sont des protestants, on comprend, mais quand ils nous parlent d'église, nous, comme catholiques, on dit ça, c'est l'église, c'est l'institution, mais pour des protestants, je pense que ce n'est pas ça du tout, hein. L'église, c'est simplement la communauté de ceux qui sont dans la même mouvance de foi protestante, là, comme chez les méthodistes, là. Est-ce que
Je,
c'est
non.
important dans la lecture ici?
Oui, c'est pas seulement la communauté locale, hein. Je pense qu'il y a une véritable pensée de la catholicité de l'Église comme dont la vocation est de rassembler dans une même famille ceux qui naturellement sont des étrangers les uns aux autres, hein. Donc il y a une pensée, oui, de la catholicité de l'Église chez quelqu'un comme Auerbach. Je ne le connais pas assez bien pour vous en dire beaucoup plus, mais je pense que son ecclésiologie n'est pas seulement celle d'une communauté locale. Même si, effectivement, dans les exemples qu'il donne, évidemment, il n'y a pas de magistère
Ouais, c'est ça.
universel, hein, ça c'est sûr.
Okay.
Qui d'autre voudrait intervenir?
Moi, je me suis demandé, est-ce que c'est courant que les éditeurs catholiques comme les éditions du CERF de publier comme ça un écrit protestant, là,
Ah oui,
méthodiste?
bien sûr, parce qu'il y a de très grands théologiens. La théologie, même la théologie catholique, elle ne pourrait pas être ce qu'elle est sans des grands auteurs comme Karl Barth ou comme Paul Tillich ou comme Jürgen Moltmann. Ou, je pense que vraiment, je ne veux pas dire que la théologie catholique soit devenue une théologie protestante sans plus, mais aujourd'hui, la théologie, elle gagne beaucoup, elle bénéficie beaucoup du dialogue œcuménique, ou avec des orthodoxes, hein, comme Zizoulas. Alors, des éditions comme les éditions du Cerf ont beaucoup traduit des auteurs, je pense, à Paul Tillich, ou Zizoulas, par exemple, parmi les orthodoxes, et on gagne vraiment beaucoup à se mettre à l'écoute de ces traditions qui ne sont pas les nôtres, dont on sera peut-être sensible à telle ou telle lacune, mais qui nous font quand même découvrir des richesses du message évangélique qu'on aura peut-être moins développées dans notre propre tradition. Oui, alors donc les éditions du Cerf, oui, elles publient beaucoup de théologiens catholiques, mais elles publient aussi des théologiens protestants. Alors il faut bien sûr être conscient de comment dire des appartenances, hein, des différences, évidemment, mais on a beaucoup à gagner. Moi, je trouve que, encore une fois, j'ai rencontré, parce qu'ils sont venus à Paris, Auerwas, l'année dernière. Aujourd'hui, c'est un vieux monsieur, hein. Il est extrêmement touchant. Enfin, c'est un saint homme. Et il a une forme de théologie qui, je trouvais, très modeste, très, très concrète. Mais il rayonne quand même, je trouve, l'amour du Christ. Et donc, il a son disciple qui est Cavano, William Cavano, qui a écrit des choses que je trouve vraiment très, très, très intéressantes et qui se différencie de son maître, parce que c'est Auerbach qui a dirigé sa thèse, qui se différencie de son maître comme étant, voilà, catholique. Hein, donc, il n'a pas les mêmes positions en morale, il n'a pas la même ecclésiologie, il ne dira pas la même chose de la liturgie, etc. C'est différent, mais vraiment, oui, on gagne beaucoup, je trouve, de cet échange. Pour une théologie qui soit une théologie vraiment vivante aujourd'hui, c'est même nécessaire.
Bien.
Je ne sais pas si enfin, on arrive effectivement presque à 9h30, alors
On est
je
en
ne sais
plein
pas
dans le
si.
timing.
Oui, je ne sais pas s'il y a une question, même une question de compréhension, quelque chose qui vous a échappé, qui vous semble intéressant de préciser.
Alors moi, j'aurais peut-être une question.
Merci, Bonnie.
En fait, enfin, c'est tout le problème. Enfin, on va revenir à tout le problème, mais c'est oui, le problème de la vertu. Quelles vertus sont universelles et quelles ne le sont pas? Enfin, voilà, selon les régimes politiques. Voilà, parce que par exemple, dans des régimes totalitaires, on retrouve quand même des vertus de courage, par exemple, et en même temps, voilà, et donc, ça, voilà, moi j'ai quand même un peu un problème par rapport au sens que peut donner que peuvent donner des régimes politiques, voilà, et aussi au côté inné justement de la vertu, parce qu'on va en développer plus que d'autres, chacun en développe plus que d'autres, voilà, elles sont toutes différentes. Voilà, moi j'ai un peu des questions là-dessus, mais bon, ça me, voilà, je suis toujours un petit peu en, toujours un peu un peu en, en voilà, en but avec ça, parce que voilà, ça me voilà, et puis ça dépend du temps aussi, voilà, enfin de l'avancée de l'humanité. Donc, voilà, bon, mais.
Mais je pense que les questions que vous posez sont tout à fait essentielles, hein, et je pense, n'est-ce pas, que Les vertus seront comprises différemment et elles vont composer les unes avec les autres dans des équilibres différents selon les époques et selon les cultures. Hein, le rapport à l'autorité ou le sens critique, par exemple, on va dire le sens critique, on peut dire c'est par exemple c'est une vertu, hein, on pourra dire le fait de savoir prendre de la distance d'avoir une évaluation. Selon des critères précis de tel discours, de tel... Bon, le sens critique en Occident sera très très important. Dans d'autres cultures, il sera perçu comme un manque de respect pour les institutions, le rapport aux parents, etc. Et donc, d'une culture à l'autre, on aura des équilibres différents. Et on se rendra compte qu'il y a quand même, je dirais, au sein d'une humanité commune, justement, différentes manières de la réaliser qui ne sont pas nécessairement inférieures ou supérieures les unes aux autres, mais qui sont et complémentaires et qui ont à s'apporter les unes aux autres. Il serait dommage qu'on aboutisse à une sorte de culture universelle où la formation morale soit assurée exactement de la même manière partout. Hein. Si on accepte justement l'importance de l'histoire, la manière dont elle nous conditionne, ben non, on aura des choses qui sont quand même très très diversifiées, d'autant plus diversifiées qu'elles sont plus humaines et plus spirituelles. Et c'est passionnant d'essayer de comprendre ce que nous avons de profondément commun à travers les différences qui nous constituent. On a parlé, ben, tout à justement, je viens de parler de la du dialogue œcuménique. Bien sûr, nous ne sommes pas d'accord sur certains points théologiques entre les différentes églises, mais moi, je trouve qu'il y a toujours une sorte de bonheur de rencontrer un frère, une sœur d'une tradition qui n'est pas la nôtre, lorsque de façon très différente, on retrouve profondément la même foi au Christ. Je suis très 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 touché. On vient de célébrer dans notre église une liturgie orthodoxe. On a une exposition l'année dernière sur les chrétiens en Éthiopie. Ce sont des mondes qui ne sont pas le mien, hein, qui sont très très différents dans leur expression, dans des mondes familiaux, politiques, religieux, différents du mien. Mais je suis toujours extrêmement touché, remué de retrouver dans quelque chose qui est très différent de ce que je suis, un commun, hein, qui est un commun humain, un commun religieux. Et donc, alors c'est pas exactement la question, Véronique, que vous posiez, parce que évidemment, si je comprends bien, en reprenant un peu les mots de Montaigne, on pourrait dire à partir de ce que vous dites, vice en deçà des Pyrénées, vertu au-delà, quoi. Hein, c'est peut-être plutôt ça l'objet de votre remarque. Mais même là, enfin, par exemple, le rapport aux autorités qui pourra nous paraître une forme de servilité dans un certain contexte paraîtra au contraire comme une haute vertu dans un autre contexte et de fait porter une qualité de vie humaine assez, assez forte. Mais alors, bien sûr, cet amour de la diversité, y compris dans ce que l'on va dire et ce que l'on va pratiquer des vertus, je crois, doit s'accompagner d'un sens profond de l'humain qui nous rassemble. Ce sens de l'humain, il peut évoluer aussi, enfin, la compréhension qu'on a de l'humain peut évoluer aussi, mais je crois que la rencontre de l'autre et de l'autre culture va le faire grandir. Hein. Donc voilà, je pense qu'il y a effectivement, bon, puis il ne faut pas non plus tout, comment dire, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à une définition abstraite des vertus hors de leur contexte. Par exemple, la vertu d'obéissance, est-ce qu'il faut obéir pour obéir? Comme vous l'avez dit, dans un régime totalitaire, qu'est-ce qu'on fait de l'obéissance? La vertu, une vertu compose avec d'autres vertus et elle doit s'évaluer dans un contexte historique donné. Ça se vit, une vertu, c'est toujours quelque chose de concret. On peut en donner une définition, mais c'est en s'arrêtant en définition abstraite. Voilà, notre vocation, c'est pas de définir de se battre pour des définitions abstraites, mais c'est de vivre en vérité les idéaux qu'on peut
Merci beaucoup.
nous être transmis.
Eh bien, merci beaucoup, frère Gilles. Nous avons été très heureux de ces 4 soirées que vous nous avez permis d'avoir cette année, janvier, février, mars, avril, pour avancer sur ce sujet des vertus. Donc, merci beaucoup à vous. On essaiera, l'association Scolaire essaiera l'année prochaine
Merci.
de voir avec vous si on peut faire d'autres ateliers. On verra sur quel thème. Mais on
Toujours
serait ravis de
super.
pouvoir le faire.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci,
Merci pour
même si on n'est pas très
l'invitation.
nombreux, c'est toujours super. Voilà.
Oui. Merci
Certainement.
beaucoup.
Merci. Bonne soirée à vous tous.
Bonne
Bonne
soirée.
soirée.
Bonne soirée, frère Gilles. Bonne soirée à tout le monde.
Et bon après-midi au Canada.
Ouais, je t'avais pas oublié.
Merci beaucoup.
Merci
Merci, Marie.
beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir,
Merci
Marie-Hélène.
beaucoup. Merci, frère
Au
Gilles, en particulier. Vous
revoir.
avez
Oui,
beaucoup
merci,
travaillé pour tout
merci.
ça.
Oui,
Nous en
merci.
sommes très reconnaissants.
Oui,
Merci.
je...
Bonne
Merci
soirée.
beaucoup.